Tantôt, un auditeur a acheté une maison en juin de cette année et souhaite la revendre là, bientôt. Puis il se posait la question concernant le gain en capital et l'imposition. On a Émile qui dit être comptable. Émile, vous avez des précisions sur l'imposition du gain en capital?
Oui, en plus, le monsieur en question, lui, il en avait déjà vendu une en 2001, sa résidence principale, et il en a acheté une autre, puis il l'a revendue peu de temps après aussi en 2021. Ce que je mentionnais, en fait, c'est que ce n'est pas nécessairement une question de durée d'habitation, c'est une question d'intention. Vous pouvez habiter la maison juste pour une journée, supposons, et si quelque chose se produit qui fait que ça ne correspond plus à votre façon de vivre ou à votre mode de vie. Un exemple, le monsieur et la madame achètent un condo à 1,5, puis finalement la madame tombe enceinte, puis là ça fit plus, là, il savait pas au moment de l'achat, même si ça fait juste une semaine qu'il habite, il vend, puis s'il en a même vendu une autre dans l'année, c'est reconnu quand même parce que c'est un motif raisonnable, c'est une intention était d'habiter.
Ben, c'est intéressant, oui.
Donc, il faut prouver son intention, dans le fond.
Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, si quelqu'un se sépare ou il y a d'autres, tu sais, les circonstances de la vie font en sorte qu'on n'a pas le choix de vendre à un moment donné, mais c'est vraiment intéressant que vous nous ayez appelé avec ça, Émile.
Merci,
c'est un très bon exemple aussi, là, l'affaire de la séparation. Là, puis même votre monsieur, après ça, qui avait appelé, il y avait un autre cas là, qui a acheté, puis finalement, c'était pas du tout comme c'était une fois qu'il rentre dedans. Puis c'est un motif raisonnable de considérer ça comme un gain capital, comme résidence principale, en fait.
Oui, ben oui, c'est très intéressant. Oui. Comme tantôt, Gilles n'a pas été imposé sur son gain en capital, même s'il l'a peu habité, parce que c'est un motif raisonnable.
Exact. On veut éviter les flips. Oui. Tu sais, les flips, les gens qui font des sous puis qui payent jamais de gain en capital. C'est ça, le but.
Quelqu'un qui fait ça deux, trois fois par année, là, ben, c'est mon motif. Là, on va se questionner sur ses motifs.
Ben, c'est ça. On lui souhaite un peu de stabilité, là.
C'est ça.
Merci beaucoup, Émile.
Bonne émission. Hein.
Merci.
Francis, bonjour.
Salut, comment ça va?
Ça va bien.
Êtes-vous prête à régler une chicane de famille?
J'assiste souvent à des chicanes de famille, mais les régler... On peut vous écouter.
Non, c'est pas une chicane. On a une divergence d'opinion, puis je vous parlais de la mienne, puis vous me direz si c'est moi qui ai dans le champ. Dans le fond, ma belle-mère essaie d'acheter une maison depuis un peu plus d'un an. Elle a un budget limité. Là. On parle de 300 000. Il y a quelques années, c'était très raisonnable, puis aujourd'hui, c'est plus difficile. Elle achète avec un agent. Puis moi, mon opinion, c'est que si je suis un agent qui représente un vendeur, puis j'ai des tonnes d'offres, puis je vois un acheteur qui arrive avec son propre agent, ben je me dis, il va falloir que je partage ma commission, donc pourquoi choisir lui si les montants sont sensiblement les mêmes versus quelqu'un qui arrive seul?
Est-ce que
mon raisonnement est bon?
Ben c'est une bonne question, puis c'est pour ça que la loi sur le courtage immobilier interdit à un courtier immobilier de diminuer sa rétribution, par exemple. Tu sais, mettons un courtier qui a un client direct versus votre belle-mère qui achète avec un courtier, là. Les deux font une offre. Ben le courtier du vendeur n'a pas le droit de dire, ben écoute, dire au vendeur, ben moi, je te charge 1% de moins en cas de surenchère ou, tu sais, bon. Ça, c'est pour que les gens soient aussi avantagés de travailler avec un courtier que sans courtier. Moi, personnellement, quand quelqu'un arrive avec un courtier, bienvenue, puis le client va être accompagné. Tu sais, tout est relatif. Il y a peut-être des courtiers qui se sentent comme ça puis qui disent, waouh, je vais avoir la commission moi tout seul, mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de collaboration, puis les acheteurs qui veulent travailler avec un courtier, s'ils sont bien accompagnés, sont bien outillés, puis vont réussir à acheter. On a vendu quand même beaucoup de maisons l'année dernière, beaucoup avec d'autres courtiers. Donc, c'est pas un critère, là, selon moi. Moi, je pense qu'on est bien accompagné aussi à l'achat avec un courtier. Puis des gens qui vont y aller tout seuls, ben tu sais, le courtier qui représente le vendeur, il y a un contrat avec le vendeur, pas avec l'acheteur. Donc, il doit donner la bonne information à l'acheteur. Ça reste qu'il représente les intérêts du vendeur.
Bon. Alors, j'espère que ça répond à votre question, Francis. Joanne est là. Bonjour, Joanne.
Bonjour. Moi, j'aurais une question rapide. J'ai acheté une maison de construction neuve où j'habiterai au printemps 2022. Et j'ai présentement ma maison qui sera à vendre, ma maison actuelle. J'aimerais ça savoir, est-ce que je devrais vendre ça cet automne ou j'attends après les ventes?
Très bonne question.
Oui. Donc, vous prévoyez déménager 2022 à quel moment?
Fin mai.
fin mai. Écoutez, il y en a qui commencent déjà à afficher les maisons là pour cette période-là. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'acheteurs. C'est un cercle vicieux. Moi, je dis aux gens, mettez vos maisons en vente. Ça va peut-être, tu sais, aider le marché aussi, aider les acheteurs. Vous, vous pourriez très bien l'afficher maintenant, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de propriétés, et mettre une occupation pour le printemps prochain. Donc, je ne connais pas votre type de maison. Tout dépend de la catégorie. Est-ce qu'elle est clé en main? Est-ce que...
C'est une clé en main. C'est un secteur qui est très recherché. Je suis à Boucherville, puis comme des maisons, là, c'est soit dernier acheteur des familles qui ont pu leur enfant ou première.
Et t'as combien maison. La maison, Joanne? Parce que tantôt, on a dit que les maisons là, en bas de 400 000, là, c'est intéressant en ce moment de les vendre.
Non, ça va être plus que ça.
Ça va être 450, 460 000 probablement qu'elle pourrait être affichée. Là, si je me fie à ce qui s'est vendu cet été.
Moi, je vous dis, vous pourriez y aller parce que Boucherville, premièrement, c'est un secteur très
recherché. C'est tout le temps la folie.
C'est tout le temps la folie à Boucherville. Vous n'êtes pas loin de Montréal. Donc, moi, je vous dirais, là, si vous êtes prête, allez-y. Puis, vous aurez toujours le loisir de refuser. Hein. Si vous avez juste une offre, là, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, Joanne. Alors, moi, je vous dis, prévoyez la mise en marché. Comme ça, vous allez régler cet aspect-là. Puis, il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché en ce moment, ce qui vous avantage.
Parfait, Joanne. Ce qui est très bien, c'est que pas de stress à Boucherville. C'est tout le temps le bon moment pour vendre.
Tout le temps.
C'est un excellent marché. Mélanie, c'est un plaisir.
Toujours. Ça passe tellement vite.
La semaine prochaine à 11h. Mario! Gilles Langlois, à la réalisation, merci. Jérémy s'en vient dans un instant. Jérémy Rainville pour les amateurs de sport au week-end. Et on va se retrouver pour Classique 80-90 à 14h. Salut, portez-vous bien.
Bonne semaine.